sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé, 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 organisé.
Vous êtes sur Alternante FM, voici Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Alternantaises et alternantais, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Au sommaire de ce nouveau numéro, je vous présenterai le 33e forum du film documentaire d'intervention sociale dans lequel je suis impliqué depuis plus d'une décennie. Je vous proposerai ensuite deux notes de lecture. La première est l'œuvre d'un universitaire haïtien, Justin Podure. Elle revient sur un épisode récent de l'histoire politique du pays, celle qui a vu le président des pauvres, Jean-Bertrand Aristide, être écarté du pouvoir au nom de la démocratie, autrement dit, du néolibéralisme. La seconde est l'œuvre de l'historienne Lucia Katz, qui s'est intéressée à l'émergence des asiles de nuit dans la France du XIXe siècle. Pas de revue de presse cette fois-ci, mais deux épisodes de notre feuilleton radiophonique sur le capitalisme et les luttes sociales. Le premier épisode vous parlera du paternalisme d'entreprise, le second, de la doctrine sociale de l'Église. J'ai bien sûr une pensée pour les victimes des derniers attentats de Bruxelles, comme j'en ai pour toutes celles et ceux qui, sous toutes les latitudes, meurent sous les coups des massacreurs qui agissent au nom de Dieu ou du pognon. Comme de coutume, les terroristes islamistes qui ont ensanglanté la Belgique ne se sont pas attaqués aux riches, aux fascistes, aux racistes qui pullulent en Europe, mais encore une fois, à la population sans distinction d'origine sociale ou culturelle. Ils ont cherché à tuer le maximum de monde parce qu'ils veulent que la paranoïa accompagne chaque jour celles et ceux qui vivent dans les grandes agglomérations, incarnation des melting pots qu'ils abhorrent. Ils veulent exporter la guerre civile ici pour rendre la cohabitation sociale et culturelle impossible. Cette mixité leur fait horreur, car elle prouve que l'intolérance ne régit pas la vie de la plupart d'entre nous. Oh, qu'il y ait du racisme, de l'incompréhension, de la méfiance, personne ne le nie. Qu'il y ait des ghettos de pauvres où les immigrés ou descendants d'immigrés sont ultra-majoritaires, tout le monde le sait. Comme tout le monde sait qu'il existe des ghettos de riches qui cultivent l'entre-soi culturel et social, le mépris de classe. Mais il y a aussi des mariages mixtes, du métissage et mille et une façons de faire sa vie. La décomposition sociale, la ségrégation urbaine, la fragmentation du salariat, le précariat généralisé, l'ubérisation de l'économie et autres. De tout cela, les djihadistes n'ont rien à dire, sinon qu'Allah, dans sa grande bonté, pourvoira à tout et advienne que pourra. Ils ne se posent même plus en défenseurs des opprimés contre l'Occident décadent, impérialiste, individualiste, mais en seul être humain respectueux du divin. Ils veulent transformer la crise sociale en crise ethno-raciale, en crise religieuse. À ce titre, l'extrême droite européenne est leur meilleur ennemi, puisqu'ils dispensent les mêmes idées nauséeuses et s'efforcent de nous enfermer dans une identité primordiale, celle qui fait de nous des nationaux, des blancs et des chrétiens. Il ne faut pas s'étonner de voir prospérer les discours réactionnaires et essentialistes quand la lutte de classe n'est plus pour beaucoup qu'un vestige des temps anciens, quand la place que l'on occupe dans les rapports de production est jugée accessoire et politiquement peu opératoire et médiatiquement peu glamour. Face à cela, il est bon d'aller voir, comme des lions, un documentaire retraçant la lutte des ouvriers de PSA Aulnay contre la fermeture de leur turne. Là, pas de noirs, d'arabes, de sous-chiens ou de je ne sais quoi, mais des prolétaires décidés à ne pas se faire piétiner sans rien dire, et se battant pour leur intérêt d'exploiter. Il faut être dans les rues, parmi les jeunes de toutes origines et conditions, et les entendre construire un monde dans lequel ils ne se voient aucun avenir. Il est bon surtout de ne pas se faire piéger par des gouvernements qui, au nom de la sécurité de tous, ne laisseront jamais passer l'occasion de restreindre les libertés de celles et ceux qui s'opposent à l'ordre néolibéral du monde. Nouvelle donne vieille rengaine, l'actualité. Du 18 au 22 avril prochain se tiendra le 33e forum du film documentaire d'intervention sociale proposé par l'association Visage, dont je suis l'humble président depuis une poignée d'années. Ce forum se déroulera au cinéma Saint-Paul à Rezé et vous aurez toutes les informations nécessaires en allant sur le site forum visage tout attaché, visage au pluriel, .org. Remontons le temps. À la fin des années 70, la vidéo s'est peu à peu imposée comme une forme d'expression particulièrement adaptée au secteur de l'animation et de l'éducation. Ici et là, quelques passionnés se regroupaient pour créer des pôles de matériel audiovisuel, futures structures de formation et d'aide à la réalisation de courts-métrages. Devant l'absence de réseau ou de lieu de diffusion, la nécessité d'instaurer un rendez-vous régulier s'est vite manifestée, et c'est ainsi qu'en 1982, avec l'aide du Centre audiovisuel de Loire-Atlantique et de l'École d'éducateurs de la Classerie, se crée l'association Visage pour organiser un forum vidéo d'intervention sociale. Cette dernière expression semblait la plus susceptible de rendre compte du secteur concerné, l'action sociale, l'animation socioculturelle, l'éducation et la formation. Bricolés avec les moyens du bord ou structurés déjà comme des films professionnels, les documentaires proposés, présentés, se sont vite imposés comme de véritables documents témoignant soit de situations sociales difficiles ou de souffrances cachées, soit d'expériences marquantes pour animer et enrichir la vie sociale. 30 ans ont passé. Aujourd'hui, les documentaires diffusés sont l'œuvre de professionnels engagés qui, dans la précarité souvent, mettent leurs compétences et leur enthousiasme au service de ceux à qui la parole est habituellement confisquée. Dénoncer les injustices et les souffrances sociales, débusquer les excès associés à la modernité, dévoiler les situations intolérables, mais surtout valoriser les actions de ceux qui luttent pour un monde plus supportable. Voici les voies que Visage a tenté d'explorer depuis sa création. Cette 33e édition aura pour thème la folie. Une folie qu'il ne faut pas comprendre uniquement comme un synonyme de trouble mental, mais aussi comme l'expression d'un acte déraisonnable, jugement très subjectif, évidemment, mais on se doit de défendre cette subjectivité. On y parlera donc des troubles bipolaires, de la façon dont la psychiatrie sénégalaise prend en compte ce que les anthropologues appellent l'invisible, c'est-à-dire les djinns et autres esprits malfaisants. On y parlera de la folie religieuse, celle qui pousse des jeunes à tuer au nom d'Allah, avec La Désintégration, une excellente fiction de Philippe Faucon, ou bien en celui du Christ. On y parlera de la folie guerrière au Rwanda hier et en Syrie aujourd'hui, avec Eau argentée, un documentaire aussi essentiel qu'éprouvant. On y parlera des violences hommes-femmes, de l'homophobie, de la lutte armée en Allemagne, de la destruction des écosystèmes, de la marchandisation du monde, des conditions de travail aliénantes dans l'agroalimentaire. On vous plongera également dans l'univers presque kafkaïen d'une antenne de Pôle emploi. Je me permets de vous délivrer, en guise de conclusion, le mot du président qui figure sur la plaquette de ce forum. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Cette pensée d'Antonio Gramsci me semble particulièrement adaptée à la période actuelle. Ce vieux monde qui se meurt, c'est ce système de gaspillage généralisé qui corrompt les esprits, discipline les corps et détruit les écosystèmes au nom de l'argent roi. C'est ce monde où cynisme politique et prédation économique se donnent la main pour faire de nous des êtres calculateurs et égoïstes. Le nouveau monde qui tarde à apparaître ne connaît pas les frontières et les cultures. Il germe là où les dominés redressent la tête, s'organisent, expérimentent et clament haut et fort avec leurs mots et leurs tripes que la servilité et la cupidité sont les deux faces d'une même médaille, qu'il ne tient qu'à nous de sauver ce qui peut l'être encore de notre seul monde possible. Quant aux monstres, ils ont pour visage ceux de la barbarie et du fanatisme, de la suffisance bureaucratique et de l'insolence des kleptocrates. Le visage de ceux pour qui les gens de peu ne sont que des variables d'ajustement dans leur quête de puissance économique, politique et spirituelle. Non, la folie n'est pas toujours irrationnelle.
cri, personne, juste un cri dans la nuit, vers le soir, au matin, ce n'est rien, rien, rien. Ce n'est qu'un cri, rien qu'une turbulence, un de ces pauvres cris dont est fait le silence. Cri des locomotives sur la courbe du rail, et cri du chat en rut, grattant au soupirail. Cri des fleurs que tu cueilles, de l'herbe que tu foules. Cri sous nos pas aveugles de minuscules foules. Qui crie ? Personne ! Presque personne ! C'est un homme ou un chien, c'est personne, presque rien, rien, rien. C'est tout juste une femme hurlant entre ses gosses, devant son homme à terre qu'on frappe à coups de crosse. Le rêve d'un tigre triste dans le cirque d'hiver, réveillant le boulevard des filles du calvaire. La vieille qu'un morve suit et qui soudain attaque, lui volant sa pension en lui fauchant son sac. La fille en plein midi criant qu'on la torture, et sa falle en top scène au milieu des voitures. La joie des gens massés qui rient et applaudissent, le bouquet crépitant du grand feu d'artifice, et la terreur de ceux qui trébuchent et qui tombent en croisant leurs bras nus pour conjurer les bombes. Qui crie ? Personne ! Ferme ta porte ! Ferme ton cœur ! Tes oreilles ! Fais le mort ! Ne fais rien, rien, rien. T'es ta raison qui gêne et te rappelle à l'ordre. Laisse l'enfant crier, laisse le chien le mordre. N'écoute pas l'appel de la viande qui souffre, ni même celui des âmes basculant vers les gouffres. Le cri des abattoirs où coule un sang concret, ou celui de ce peuple liquide et sur décret. Le cri des aliénés entre les murs de briques, celui des moribonds et celui des lubriques. Le bêlement innocent de la charnue qu'on frappe, et de celle plus perverse qui fuit pour qu'on l'attrape. Le cri que contrefait la putain sur sa couche, et le cri de Jésus, le vinaigre à la bouche. Celui du moine vierge dont soudain la foi cède, qui tout en l'insultant demande à Dieu son aide. Celui de l'enfermé à vie dans sa cellule, qui sur un nom gravé dans le plâtre éjacule. Cri de rage impuissant ou cri métaphysique, le cri qu'un musicien a mis dans sa musique, ou celui qu'Edouard Munch a peint comme on dit vague. Ce cri qu'on n'entend pas sous le grand cri des vagues, le cri muet du chercheur quand le submerge l'onde, ou celui d'évident, l'un des mystères du monde. Et moi, mon bel amour, qui vois ton sang s'effondre, la lame dans ma main, écrit sans rien comprendre, écrit sans rien comprendre.
Lolo.
Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano?
Les notes de lecture.
Porta le armi.
Coup d'État, répétition, précarité générale, violence sociale, répression politique brutale et massive, ouragan annuel, il semble qu'une malédiction plane au-dessus d'Haïti, que le mauvais œil condamne ce bout d'île à la misère perpétuelle. La malédiction à bon dos, et c'est ce que nous explique l'universitaire Justin Podure dans « La nouvelle dictature d'Haïti », un livre qui nous apporte un éclairage intéressant sur l'histoire d'Haïti dans la première décennie du présent siècle. Une histoire terriblement chaotique, dans laquelle les États-Unis jouent un rôle central. La décennie qui suit le départ précipité de la dynastie sanguinaire des Duvalier met aux prises un ancien prêtre partisan de la théologie de la libération, Jean-Bertrand Aristide, et la petite nomenclatura haïtienne que l'auteur appelle le gang des onze, avec la Maison-Blanche comme arbitre. Le monde communiste n'étant plus, l'heure est à la promotion de la démocratie. Les États-Unis apprécient donc peu le recours au coup d'État dans son précaré. Elles préfèrent des présidents légitimes et responsables, c'est-à-dire libéraux. Malheureusement, Jean-Bertrand Aristide ne l'était pas assez à ses yeux. Il fallait donc trouver le moyen de s'en débarrasser sans que cela n'apparaisse comme un retour aux méthodes d'antan incompatibles avec la doxa néoconservatrice. Et d'une certaine façon, ils y sont parvenus. En 2004, le départ précipité d'Aristide sous bonne garde américaine est l'aboutissement de 4 ans de propagande acharnée visant à faire du président légal un dictateur mégalomane s'appuyant sur une milice privée pour faire taire ses opposants. Les Duvalier avaient leur tonton Macoute, Aristide à ses gangs de rue, les fameux chimères. Chasser Aristide doit donc permettre le retour au calme. En fait, de retour au calme, nous raconte Justin Podure, c'est à une mise au pas de la population à laquelle s'est livré le nouveau régime, soutenu par les gouvernements américains, français, canadiens, sans oublier les ONG omniprésentes sur le territoire. Qu'Aristide ait commis des erreurs, que ses partisans n'aient pas été irréprochables, cela ne fait de doute pour personne, même si l'auteur n'en dit presque rien. Il aurait été difficile qu'il en fût autrement si l'on considère l'état de misère du pays, l'un des plus pauvres de la planète. Mais ce n'est pas à un retour au calme auquel nous avons assisté, mais à une liquidation violente des mouvements populaires favorables à l'ancien président. Une liquidation perpétrée autant par des groupes paramilitaires ou mafieux que par les forces armées de la MINUSTA, autrement dit, par la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Exécutions sommaires d'opposants, répression violente de manifestations populaires, saccage des bidonvilles, criminalisation et incarcération de jeunes issus de milieux défavorisés. La pacification d'Haïti s'est payée de nouveau par du sang et par des larmes. Pour le seul mois de mars 2004, un observateur évalue à 1000 le nombre des assassinats politiques perpétrés par le nouveau régime avec le soutien des grandes puissances. Pour Justin Podure, sous une façade démocratique, c'est une dictature internationale qui s'est fermement implantée. Fouillez votre mémoire. Essayez de vous souvenir de la façon dont les médias occidentaux parlaient de Jean-Bertrand Aristide. Il fut un temps titide, la voix des sans-voix, un homme généreux, attaché au bonheur de son peuple, puis dépassé par la tâche et grisé par le pouvoir. Il est devenu un chef d'État mégalomane et autoritaire. C'est contre ce discours bien rodé, qui sous-entend que les peuples n'ont rien à attendre de ceux qui leur promettent un changement radical de leurs conditions d'existence, que s'élève Justin Podure. Sans doute peut-on lui reprocher de le faire davantage en partisan qu'en historien, mais sa voix mérite d'être entendue. Je ne puis que vous conseiller la lecture de ce livre, Justin Podure, La nouvelle dictature d'Haïti, coup d'État, séisme et occupation onusienne, publié par les éditions Éco-Société en 2016. Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano?
Les notes de lecture.
Porta le armi.
Que faire de ces pauvres entend les rues des villes dans une France de la Troisième République en pleine mutation industrielle? Peut-on, en bon chrétien, les laisser dans la misère ou, pour éviter le pire, c'est-à-dire le désordre, doit-on leur venir en aide? Cette question est au cœur du livre court et très instructif de Lucia Katz sur l'émergence des asiles de nuit depuis la Commune de Paris jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les libéraux n'ont eu de cesse de le répéter. Il y a les bons et les mauvais pauvres, les méritants et les déméritants, les invalides et les valides, les inutiles au monde victimes d'une infirmité ou de l'âge, et les autres, intempérants, paresseux, profiteurs, qui se complaisent dans les bas-fonds. Ceux qui doivent bénéficier de la charité privée, voire publique, et les autres, que l'on se doit de châtier sévèrement et de renvoyer sur le droit chemin du salariat. Il y a une aile droite, dure avec les gueux et moraliste en diable, dont une des têtes de gondole serait Herbert Spencer. Il y a une aile gauche, qui pourrait avoir les traits du baron de Livois, président de l'œuvre de l'hospitalité de nuit parisienne, qui, sans nier qu'il faille séparer le bon grain de l'ivraie, prend en compte les, je cite, « infortunes réelles et involontaires, conséquences de temps de chômage forcé où les outils de l'ouvrier deviennent inutiles et sans emploi ». Comme l'écrit Léonce de la Ralaille en 1881, il ne faudrait pas croire que les hôtes de l'asile de nuit sortent tous des bas-fonds de la société. Plusieurs appartiennent à des professions libérales. L'inconduite, l'imprévoyance, des accidents fâcheux, les soubresauts de la politique les ont fait échouer sur cette plage heureusement hospitalière. Il faut donc tendre la main à cette population flottante, tous ces honnêtes travailleurs sans emploi, paupérisés, afin d'éviter qu'ils ne soient contaminés par les vagabonds indignes d'intérêt. Tendre la main et les remettre, bien sûr, dans le droit chemin. La population flottante doit être fixée, comptée, contrôlée surtout. Elle doit être décontaminée, moralement et physiquement. Dans l'asile de nuit, l'encadrement est paternaliste et ferme. Grâce à la tenue stricte d'un registre, on prend bien soin de veiller à ce que les profiteurs ne passent d'asile de nuit en asile de nuit, s'épargnant ainsi le coût de quelques nuits d'hôtel. On ne banine pas avec le règlement. L'oisiveté est proscrite, de même que le laisser-aller. On se lève à 5h du matin, on effectue quelques corvées. Parfois même, on trouve à s'y employer, histoire d'amasser un petit pécule dont une part reviendra à l'asile de nuit. Le lessivage corporel et vestimentaire est obligatoire. Si la brière n'est pas, elle, obligatoire, aucun journal politique n'a droit de citer entre les murs de l'asile. Le lecteur pourra en revanche se plonger dans les ouvrages d'éducation à la prévoyance et à la tempérance et dans les récits de voyage. L'asile est donc une école de correction, non du système, mais de ceux qui peinent à s'y faire une place. Comme le souligne en conclusion l'auteur, l'avènement des asiles de nuit a participé au compromis républicain et à la cohésion sociale. Ces refuges deviennent la conséquence logique d'une tentative de pacte républicain fondée sur la paix sociale. Ouais, une république qui n'est pas celle de la justice et du pain, celle de la commune, mais celle des républicains modérés, opportunistes, disait-on à l'époque, celle des Ferry et des Gambetta, celle de l'enseignement moral et civique à l'école et de la mission civilisatrice de la colonisation. Une république bourgeoise, en somme, pour laquelle la question sociale est avant tout une question de police. Je ne puis que vous conseiller la lecture de ce livre, Lucia Katz, L'avènement du sans-abri, Les asiles de nuit, 1871-1914, Libertalia, 2015. Capitalisme, individu et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. La bourgeoisie ne fut pas toujours à l'image de ses membres les plus insensibles à la misère humaine. Bon, si elle peut partager un certain nombre de leurs analyses, idéal méritocratique, refus de l'interventionnisme d'État, si elle peut flétrir l'intempérance des pauvres, elle n'en demeure pas pour autant sourde à ceux qui lui répètent que la paupérisation d'une fraction importante du monde du travail est plus qu'une menace pour l'ordre social. Elle est une insulte à la morale chrétienne. Comme l'a écrit un jour Léon Armel, une des figures du catholicisme social, « Si tous les riches avaient l'âme aussi belle, aussi compatissante que nous, nous n'aurions point eu ces horribles massacres des journées de juin 1848. La société ne serait pas affligée du paupérisme, plaie hideuse qui la ronge. » Au sein du patronat, des voix s'élèvent ainsi pour flétrir l'arrogance de certains de leurs pairs, leur mépris du travailleur. Catholiques, protestants ou juifs, ces patrons s'investissent dans une mission éducative et sociale. Faire collaborer les classes en conciliant la quête du profit et l'amélioration du sort des prolétaires. Faire que l'entreprise fonctionne dans l'harmonie et la concorde, mais sans sombrer dans une sorte d'égalitarisme des fonctions et des conditions que l'on peut retrouver dans certaines doctrines utopiques ou socialisantes. Chacun doit rester à sa place et collaborer pour le bien commun. L'entreprise doit être vue comme une famille, dotée d'un pater familias autoritaire mais juste, chef d'entreprise tout autant qu'éducateur. Le paternalisme est né. Ce paternalisme-là est tout autant le fruit du volontarisme patronal qu'un choix dicté par les circonstances. L'essor industriel nécessite des bras. Or, dans bien des endroits, le prolétariat est volatile. Et il se vend dans les fabriques à la morte saison agricole et demande son compte dès que les champs réclament davantage son attention. Bon, si cela convient aux activités industrielles saisonnières comme les conserveries, cela ne peut générer que de l'embarras pour les autres. Il faut donc fidéliser le personnel, autrement dit, l'attacher d'une manière ou d'une autre à l'usine. Il faut que l'ouvrier trouve intérêt à se sédentariser, à s'installer durablement. Lui garantir un logement correct avec un jardin potager en prime est l'une des solutions. Le patronat va donc construire des cités ouvrières, comme dans le Nord avec les corons ou dans l'Est de la France. Il propose même aux ouvriers d'accéder à la propriété, car il sait qu'ici-bas, tout le monde rêve de devenir propriétaire et d'échapper au logement insalubre au bas-fond. Comme l'écrira Le Play, ce n'est pas lui l'ouvrier qui possède sa maison, mais bientôt sa maison qui le possède. À Mulhouse, les patrons récompensent même les locataires qui se sont distingués par l'ordre, la propreté et en général la bonne tenue de leur habitation, comme aussi pour la bonne culture du petit jardin qui en dépend. Un bon ouvrier ne vit pas dans le désordre. Il cultive son jardin et ne va pas perdre son temps dans les cafés où l'on boit plus que de raison, où l'on se bat à l'occasion, où l'on fréquente des prostituées, des révoltés, bref, la canaille rouge. Le logement n'est qu'une partie du vaste système d'encadrement qui se met en place à partir de la moitié du XIXe siècle. Le patronat crée des caisses d'épargne et de retraite, des dispensaires ou des magasins d'alimentation. Dans les houillères, le patronat fournit gratuitement le charbon dans les corons. Partout en France, il finance des sociétés philharmoniques, des clubs sportifs, des chorales, mais aussi des centres d'apprentissage pour former lui-même sa main-d'œuvre. Un bon ouvrier est un ouvrier laborieux, rangé et surtout un père de famille. C'est pourquoi, en bon chrétien, les patrons paternalistes célèbrent les familles nombreuses, persuadés que l'enfant élevé dans une famille ouvrière honnête et travailleuse ne pourra que se fondre naturellement dans l'univers usinier. Dans certains endroits, on punit de licenciement ceux qui vivent maritalement, et même les veuves à la, je cite, « conduite déréglée ». Voici donc les ingrédients pour résoudre la question sociale, de la morale chrétienne, de l'aide sociale et une surveillance de tous les instants, et bien sûr des sanctions pour ceux qui ne se plient pas aux règles en vigueur. Pas étonnant que certains virent dans le paternalisme d'entreprise un féodalisme moderne, une façon d'attacher à son destin, depuis le berceau jusqu'à la tombe, la population laborieuse et de lui faire accepter son sort. Au Creusot, la famille Schneider est même allée jusqu'à former une sorte de police parallèle pour gérer la tranquillité publique dans la ville, aux grandes dames du préfet. Henri Schneider n'avait d'ailleurs pas de mots assez durs pour fustiger l'intervention de l'État dans l'économie, autrement dit, dans ses affaires, voyant dans toute réglementation une façon de décourager l'entrepreneur. En 1897, répondant aux questions de Jules Huret, Henri Schneider, fils du fondateur, déclarait « Au fond, voyez-vous, la journée de 8 heures, dans 5 ou 6 ans, on n'y pensera plus, on aura inventé autre chose. Pour moi, la vérité, c'est qu'un ouvrier bien portant peut très bien faire ses 10 heures par jour, et qu'on doit le laisser libre de travailler davantage si cela lui fait plaisir. » Et 3 ans plus tôt, l'adjoint maire du Creusot déclarait obséquieux lors de l'inauguration de l'hôpital du Creusot financé par les Schneider « Être le père de vos ouvriers, voilà bien, monsieur, la constante préoccupation de votre cœur. » D'où vient l'argent des philanthropes? Cette question-là, l'adjoint n'y a guère songé. Cette politique paternaliste fut-elle une réussite ? D'un certain côté, ce système de bienveillance intéressée a permis de contenir la montée du socialisme et du syndicalisme, mais il n'a pu éviter que régulièrement des grèves fassent entendre la colère ouvrière, car les fils se révoltent souvent contre les pères.
Must be free. Yes, yes, yes. To forget who we be for. yes, yes, to forget the things our ancestors died for. Yes, yes, to forget that we supposed to date today with everything what we get for Africa. I look at my back as he say.
Questo muro, un muro, il muro, giù, giù.
Capitalisme, individu et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Depuis le milieu du 19e siècle, la classe ouvrière n'a fait que s'éloigner des messes dominicales. La France coloniale a reposé sur l'alliance du sabre et du coupillon, l'armée s'occupant du contrôle des corps, l'église de celui des âmes. La France républicaine repose sur l'alliance de la bourgeoisie conservatrice et du clergé. Même laïque, la bourgeoisie trouve intérêt à pactiser avec l'Église pour défendre l'ordre social contre le désordre prôné par les socialistes de toute obédience. Cette alliance de l'Église avec les riches, avec les possédants, a nuit à son autorité dans les milieux populaires. Si la campagne lui est fidèle, la ville ouvrière lui est devenue hostile. Conscient qu'il lui faut repartir à la conquête des brebis égarées, le pape Léon XIII promulgue en 1891 une bulle pontificale intitulée « Rerum Novarum », une bulle qui définit la doctrine sociale de l'Église. Elle est également une réponse aux défis que lui pose le mouvement socialiste au sens large. On peut y lire ceci. Les socialistes, pour guérir ce mal, les profondes inégalités sociales, poussent à la haine jalouse des pauvres contre ceux qui possèdent. Ils prétendent que toute propriété de biens privés doit être supprimée, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous, et que leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'État. Moyennant ce transfert des propriétés et cette égale répartition entre les citoyens des richesses et de leurs avantages, ils se flattent de porter un remède efficace aux maux présents. Mais pareille théorie, loin d'être capable de mettre fin au conflit, ferait tort à l'ouvrier si elle était mise en pratique. D'ailleurs, elle est souverainement injuste en ce qu'elle viole les droits légitimes des propriétaires, qu'elle dénature les fonctions de l'État et tend à bouleverser de fond en comble l'édifice social. De fait, comme il est facile de le comprendre, la raison intrinsèque du travail entrepris par quiconque exerce un métier, le but immédiat visé par le travailleur, c'est d'acquérir un bien qu'il possédera en propre et comme lui appartenant. Car s'il met à la disposition d'autrui ses forces et son énergie, ce n'est évidemment que pour obtenir de quoi pourvoir à son entretien et aux besoins de la vie. Il attend de son travail le droit strict et rigoureux, non seulement de recevoir son salaire, mais encore d'en user comme bon lui semblera. Si donc en réduisant ses dépenses il lui est arrivé de faire quelques épargnes, et si, pour s'en assurer la conservation, il les a par exemple réalisées dans un champ, eh bien ce champ n'est assurément que du salaire transformé. Le fonds acquis ainsi sera la propriété de l'ouvrier, au même titre que la rémunération même de son travail. Or, il est évident qu'en cela consiste précisément le droit de propriété mobilière et immobilière. Ainsi, cette conversion de la propriété privée en propriété collective, tant préconisée par le socialisme, n'aurait d'autre effet que de rendre la situation des ouvriers plus précaire, en leur retirant la libre disposition de leur salaire et en leur enlevant, par le fait même, tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur patrimoine et d'améliorer leur situation. Pour Léon XIII, le socialisme est un obstacle à la promotion individuelle. Pour Léon XIII, l'Église a le droit d'intervenir dans le domaine social pour aider à rechercher la meilleure solution possible. Il condamne la lutte des classes, donc la grève, appelle les ouvriers à la non-violence et défend l'intervention de l'État dans les relations entre capital et travail. Je cite. Il apporte au salut public et privé que l'ordre et la paix règnent partout, que toute l'économie de la vie familiale soit réglée d'après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle, que la religion soit honorée et observée, que l'on voit fleurir les mœurs privées et publiques, que la justice soit religieusement gardée et que jamais une classe ne puisse opprimer l'autre impunément. Qu'il croisse de robustes générations capables d'être le soutien et, s'il le faut, le rempart de la patrie. C'est pourquoi, s'il arrive que les ouvriers abandonnant le travail ou le suspendant par des grèves menacent la tranquillité publique, que les liens naturels de la famille, se relâchent parmi les travailleurs, qu'on foule aux pieds la religion des ouvriers, en ne leur facilitant point l'accomplissement de leurs devoirs envers Dieu, que la promiscuité des sexes ou autre excitation au vice constitue dans les usines un péril pour la moralité, que les patrons écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes, qu'ils attentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe. Dans tous ces cas, il faut absolument appliquer, dans certaines limites, la force et l'autorité des lois. La raison qui motive l'intervention des lois en détermine les limites, c'est-à-dire que celles-ci ne doivent pas s'avancer ni rien entreprendre au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux maux et écarter les dangers. Les droits doivent partout être religieusement respectés. L'État doit les protéger chez tous les citoyens, en prévenant ou en vengeant leurs violations. Toutefois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique. Le pauvre peuple, au contraire, sans richesse pour le mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'État. L'État doit donc entourer de soins et d'une sollicitude toute particulière les travailleurs qui appartiennent à la foule des déshérités. Ce qui importe par-dessus tout, au milieu de tant de cupidité en effervescence, c'est de contenir le peuple dans le devoir. Il est permis de tendre vers de meilleures destinées dans les limites de la justice. Mais enlever de force le bien d'autrui, envahir les propriétés étrangères sous prétexte d'une absurde égalité, sont choses que la justice condamne et que l'intérêt commun lui-même répudie. Assurément, les ouvriers qui veulent améliorer leur sort par un travail honnête et en dehors de toute injustice forment la très grande majorité. Mais on en compte beaucoup, qui imbus de fausses doctrines et ambitieux de nouveautés, mettent tout en œuvre pour exciter des tumultes et entraîner les autres à la violence. L'autorité publique doit alors intervenir. Mettant un frein aux excitations des meneurs, elle protégera les mœurs des ouvriers contre les artifices de la corruption et les légitimes propriétés contre le péril de la rapine. Il n'est pas rare qu'un travail trop prolongé ou trop pénible et un salaire jugé trop faible donne lieu à ces chômages voulus et concertés qu'on appelle des grèves. À cette plaie, si commune et en même temps si dangereuse, il appartient au pouvoir public de porter un remède. Ces chômages, en effet, non seulement tournent au détriment des patrons et des ouvriers eux-mêmes, mais ils entravent le commerce et nuisent aux intérêts généraux de la société. Comme ils dégénèrent facilement en violence et en tumulte, la tranquillité publique s'en trouve souvent compromise. Mais ici, il est plus efficace et plus salutaire que l'autorité des lois prévienne le mal et l'empêche de se produire, en écartant avec sagesse les causes qui paraissent de nature à exciter des conflits entre ouvriers et patrons. Fin de citation. Léon XIII demande au patron de respecter en l'ouvrier la dignité de l'homme et de se soucier de ses intérêts spirituels, comme il a le devoir de lui verser un juste salaire et de veiller à ne pas exiger de lui un travail qu'il ne saurait accomplir. L'erreur capitale dans la question présente, dit Léon XIII, c'est de croire que les deux classes sont ennemies nées l'une de l'autre, comme si la nature avait armé les riches et les pauvres pour qu'ils combattent mutuellement dans un duel obstiné. C'est là une affirmation à ce point déraisonnable et fausse que la vérité se trouve dans une doctrine absolument opposée. Dans le corps humain, les membres, malgré leur diversité, s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre, de façon à former un tout exactement proportionné et qu'on pourrait appeler symétrique. Ainsi, dans la société, les deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux besoin l'une de l'autre. Il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. La concorde engendre l'ordre et la beauté. Au contraire, d'un conflit perpétuel, il ne peut résulter que la confusion des luttes sauvages. Cette encyclique papale est d'une très grande importance pour l'histoire sociale, car elle jette les bases sur lesquelles vont se construire les premiers syndicats chrétiens. Voilà, c'était Nouvelle Donne Vieille Rengaine. À bientôt sur Alternante FM.